Je suis heureux d'apporter le message aujourd'hui et le titre de mon message, c'est la question que je vous pose. Comment gères-tu la pression? J'en vois déjà qui disent « Ouh, une grande question ». Comment gères-tu la pression? On est tous en tout lieu, en tout temps, en toute saison, peu importe qui tu es, dans quelle saison de vie tu es, on est tous soumis à la pression environnante. Dans tout ce qu'on fait, dans qui nous sommes sous pression constamment. Et ce n'est pas forcément une pression négative. Il y a des fois, il y a des pressions qui sont positives. Mais comment réagis-tu sous la pression? Ça peut être dans tes études. En ce moment, ils disent que le niveau d'anxiété pour un jeune adulte qui est dans les études supérieures est au même niveau que l'anxiété qui était chez les patients psychiatriques internés il y a 50 ans de cela. Parce qu'à chaque décennie, le niveau d'anxiété et de pression augmente d'année en année. Alors en ce moment, on a des taux d'étudiants qui disent plus de 60% ont du mal à gérer leur anxiété, ont un niveau de pression au niveau scolaire, au niveau de l'environnement, au niveau de tout ce qui se passe en ce moment. On n'a jamais été aussi sous pression pour les adolescents, jeunes adultes. Mais on est sous pression partout, au travail. Qui n'a jamais été sous pression? Ceux qui ne travaillent pas, oui, moi, j'ai pas... On est tous sous pression. Il y a quelque chose où notre boss veut qu'on puisse être productif. Il faut qu'on soit productif. On est sous la pression dans tes finances peut-être, dans les familles, dans tes relations. Et ça peut être aussi dans des pressions positives. En ce moment, dans ton entreprise, tout fonctionne bien, mais au plus ça fonctionne, au plus les contrats rentrent et au plus il y a une pression de performer, de continuer. C'est pas forcément négatif, mais on est sous pression. Maintenant, moi, je ne sais pas si pour vous c'est cela, mais il y a un endroit où dans ma vie, je suis le plus sous pression, peu importe les saisons de vie, peu importe si je m'en viens à l'église ou pas, c'est dans mon auto. Ça fait ressortir le pire de moi, l'auto. Je suis là, et à chaque fois, moi, pour moi, le retard, c'est vraiment quelque chose qui me met sous pression. Je ne sais pas si vous êtes marié avec une femme qui est toujours à l'heure. Moi, je suis marié avec une femme qui est toujours à l'heure, n'est-ce pas, chérie? Et pour moi, non, en fait, c'est des fois moi qui lui dis « Ah, t'es en retard », mais en fait, c'est moi qui suis en retard. Alors, je projette mon mal-être sur elle, mais en fait, c'est vraiment moi. Alors, je me confesse aujourd'hui devant vous. Merci pour votre pardon que vous me donnez. Ceux qui ne me donnent pas la grâce, attention, on est dans une église. Mais il y a un côté où, quand je suis en auto et que, par exemple, je suis en vacances, je respecte vraiment tout. Je vais très, 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 très doucement. Je suis vraiment. J'ai pas de pression quand je suis en vacances. Est-ce qu'il y a du monde comme moi, en congé? Je prends mon temps. Et quand il y a une auto en arrière de moi qui me met la pression, je roule encore moins vite. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu mets la pression? J'ai pas de pression. On est un jour de congé. Puis là, je suis même lent à mettre mon clignotant pour le laisser passer. Ça vous arrive? C'est l'orgueil masculin, comme « Pourquoi tu veux passer devant moi ?» Non. Et je veux vraiment à 99, tu sais, pour vraiment lui montrer que je ne passerai pas les 100. Mais ça, c'est mauvais aussi. Hein. Mais alors que je suis comme ça, moi, des fois, quand je suis en retard, je déteste la personne qui est devant moi et qui me bloque la route parce que je suis comme « Hey, tu sais pas que c'est important, il faut que je passe. » Et là, la personne, je vois qu'elle met doucement son clignotant. En fait, je me déteste moi-même, vous avez vu, ouais. Sous la pression, on est différent. On est vraiment différent, mais qu'est-ce qui ressort quand on est dans la pression? La pression, on la vit tous de toute manière. Ce n'est pas tant la pression qui est importante, c'est comment tu réagis à la pression. Comment réagis-tu à la pression? Qu'est-ce qui sort de toi quand tu es sous pression? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'impulsivité? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce qu'au contraire, c'est l'évitement? J'essaye d'éviter toute situation, j'essaye de quitter. Est-ce que c'est même, tu essayes de quitter ce qui te stresse en prenant peut-être drogue, alcool, et puis tu fais juste essayer d'éviter tout ça et puis de partir loin. Comment gères-tu la pression? Dans le livre d'Éphésiens, c'est Paul qui dit aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et ça, c'est la première clé. Comment tu gères la pression? En fait, il faut que tu sois rempli de l'esprit. J'ai une illustration ici devant vous. En fait, j'ai deux... canettes, et c'est pas de la bière, c'est sans alcool, ok? Je fais pas de marque, mais en même temps, ces deux canettes-là, ici, elles sont identiques. Et puis, vous les voyez, vous pouvez en aucun cas distinguer laquelle est pleine et laquelle est vide. Donc, en apparence, elles sont pareilles, en apparence, tout va bien, elles ont le même design, tout. De loin, il y a personne qui peut regarder, qui peut voir exactement laquelle est pleine et laquelle est vide. La seule manière, vous allez voir si elle est pleine ou si elle est vide, c'est si je mets une pression dessus. Celle qui est pleine, je peux appuyer au maximum, je peux essayer de mettre une pression. Oui, il y a une résilience, oui, elle va prendre certains coups, mais elle ne va pas briser. Par contre, celle qui est vide va complètement être crashée sous le choc de « mais quelle est la manière en ce moment dans ta vie, dans ce que tu vis, dans tes émotions ?» Comment prends-tu la pression? Est-ce que tu es rempli de l'esprit? Est-ce qu'on va voir aujourd'hui qui est tellement important pour nous? Est-ce que tu es capable de prendre les pressions de la vie et de toujours rester solide? Je dis pas que t'es invincible, non. Mais en ce moment, est-ce que tu es tellement fort que tu es tellement fort spirituellement que tu arrives à prendre les pressions de la vie? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, tu es en train d'imploser directement? Aujourd'hui, que tu sois là ou que tu sois là, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que nous ne sommes pas seulement appelés à être remplis une fois, mais à être remplis toujours. Et aujourd'hui, si tu es là, tu es à la bonne place parce que Dieu est là et Dieu veut faire en nous quelque chose que nous avons besoin pour aujourd'hui. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin et je crois que le croyant qui s'abandonne à Dieu et qui demande sa force peut et va être rempli de l'Esprit pour justement continuer à marcher dans ce monde, non pas en étant complètement écrasé par les pressions ou les choses de cette culture, mais au contraire, de rester fort pour ensuite fortifier les autres et monter le modèle que Jésus en nous, c'est là où on est plus vainqueur. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait de nous des gens forts en esprit? Sois rempli de l'Esprit. C'est Paul qui dit « Soyez rempli de l'Esprit ». C'est fort parce qu'il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche ». Parce qu'il devait y avoir sans doute une culture à l'époque, comme pour aujourd'hui, des gens qui recherchaient le côté plus facile de dire « Ah, s'il faut faire face au problème, je sais le chemin le plus simple, le chemin le plus confortable ». Non, Paul est en train de dire « Non, c'est pas dans les choses matérielles, c'est pas dans les choses ici terrestres que tu vas trouver ton confort, ta force, au contraire ». En étant rempli de l'Esprit, c'est là où tu pourras faire face à toutes les pressions du monde, à même les combats spirituels qui sont autour de toi. C'est en étant rempli de l'Esprit que tu pourras avancer dans cette vie. Quand tu reçois Jésus dans ton cœur, sache-le, tu reçois un nouveau cœur et la présence du Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est 1 Corinthiens 3,16 qui dit justement, c'est Paul qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Quel privilège! Lorsque tu reconnais que Jésus est mort à la croix, qu'il est venu pour sauver ta vie, te sauver de tes péchés, qu'il a pris la condamnation sur lui, quand tu le reconnais, sauveur, et quand tu veux le suivre en tant que Seigneur, tu deviens un enfant de Dieu. Peu importe ce que tu as déjà vécu dans le passé ou où tu en es, au moment où tu donnes ton cœur à Dieu, on va parler comme ça, au moment de ta conversion, tu deviens un enfant de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. C'est quelque chose de complètement fou logiquement, mais c'est spirituellement que Dieu vient et il nous transforme de l'intérieur. Mais alors que aujourd'hui, c'est un concept qu'on entend mal. On met beaucoup d'importance sur le corps et sur l'âme aujourd'hui. Et très peu, même parfois dans les églises, sur le côté de l'esprit. Nous sommes, puis je crois que nous sommes tripartites, c'est-à-dire nous sommes corps, âme et esprit. Et voici ce que le corps, l'âme et l'esprit sont différentes. Pour juste donner un peu de schéma pour vous, voici ce que le corps est. Le corps nous rend conscient du monde. Ton corps, avec les 5 sens, c'est ça qui te donne d'être conscient du monde. Il y a un côté où la vue, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe. Ça, c'est ce qui fait que ton expérience ici te rend conscient du monde. Ton âme te rend conscient de toi. C'est mon âme. L'autre, juste après. Tu peux mettre sur la petite flèche. L'âme, elle me donne d'être conscient de moi. L'âme, c'est tout ce qui est dans le côté de la volonté, sentiment, de mon intelligence. Il y a un côté où je comprends qui je suis avec mon âme. Mes émotions, le côté où je ressens les choses. Mais c'est par l'esprit seulement que je peux être conscient de Dieu. Par justement ma conscience que Dieu m'a donnée, l'intuition et la communion que je peux avoir avec l'esprit de Dieu. Donc il y a vraiment quelque chose où il faut qu'on comprenne qu'en ce moment, tu es toi, corps, âme, esprit. Et la question pour toi, c'est lequel entre le corps, l'âme et l'esprit, tu prends le plus soin? Lequel tu entretiens le plus en ce moment? Et je ne suis pas là pour dire, mets les émotions de côté, ce n'est pas grave, il y a juste l'esprit qui est important. Alors, mets ton corps de côté. Non, en fait, parce que Le corps influe les émotions et le spirituel, et le spirituel influe. Vous savez, à un moment donné, je vivais des temps difficiles, et au niveau de mon anxiété, c'était vraiment haut, à un niveau où j'avais plus vraiment envie de travailler, je trouvais plus de motivation. Et je me suis rendu compte rapidement que c'est parce que je ne sortais pas. Il n'y avait pas beaucoup de soleil, comme quoi ça joue vraiment pour moi là. Il y avait un côté où je sortais plus assez, j'étais tout le temps à la maison, c'était un moment où on était en télétravail. Mon corps était en fait en train de guider mes émotions, et mes émotions me donnaient que j'avais plus vraiment envie de passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste dire « je te comprends, pasteur », que je ne sois pas seul à vivre ça? Ok, parfait. Il y a un côté où mon corps n'était plus assez en forme pour, entre guillemets, donner de l'énergie à ma volonté, à mes sentiments, pour que je me sente dans le mood, pour pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, je me suis dit, je vais me remettre au sport. Ça va me redonner de l'énergie. Alors, j'ai commencé à ressortir, à courir un petit peu et tout ça. Puis, ça m'aidait bien. Donc, mon mood était un peu meilleur. Et puis, après, je me suis dit, ah ben c'est bien, je vais passer un peu de temps. Mais ça n'a pas duré tant longtemps. En fait, je me suis rendu compte que la première chose dont je devais faire pour être discipliné, c'est pas tant de sortir le matin et de faire mon sport. C'est de mettre que mon esprit soit rempli pour que tout le reste soit changé. Et ma discipline spirituelle est revenue comme voici, que je le sente ou que je le sente pas, que j'ai envie ou pas, que je sois fatigué ou pas, que j'ai vécu une mauvaise nuit ou pas. Ma discipline première sera que peu importe comment je le file, je vais me mettre dans la présence de Dieu, je vais comprendre le privilège que j'ai d'être en relation avec le Dieu de l'univers qui a créé toute chose, qui est le bâtisseur de toute chose, qui est le réparateur de mon corps. Seigneur, je veux être dans ta présence. Et je vous le dis, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces, pas seulement les forces spirituelles, parce qu'à partir de ce moment-là, mes yeux étaient changés, mes émotions étaient transformées. C'est pas parce que je le sentais un peu plus, non, c'est parce que je me rendais compte que mon esprit témoignait à mon âme, « Hey, t'es enfant de Dieu, il y a quelque chose de fort qui est en train de se faire. » Et alors là, mon âme était tellement, comme vous êtes dans la joie, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Danser, sauter. Et là, mon corps retrouvait une envie de, je vais pas commencer à aller au gym pour être fort spirituellement, je vais commencer à me discipliner spirituellement pour ensuite aller danser au gym. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu qui nous donne d'être corps, âme et esprit? On pourrait dire comme ça, je suis un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Trop souvent, on met les choses de l'autre côté. Et en ce moment, on pourrait vraiment faire attention à dire, regardez, la canette, elle est vraiment belle, elle est vraiment... Ouais, mais si elle est vide spirituellement, n'attends pas de prendre un mur dans ta vie pour réaliser que hey, ce corps-là était juste comme une enveloppe. Et c'est pas qu'il n'est pas important, non. C'est juste que tu ne peux prioriser ton corps si ton esprit en ce moment est vide. Il faut que tu comprennes. Réalises-tu que Dieu lui-même veut habiter dans ton cœur? Et si en ce moment tu n'es pas chrétien puis que tu viens d'arriver, quel privilège de savoir que le Dieu de l'univers veut vivre dans ta maison. C'est fort. David disait dans les psaumes, il y a des millénaires, « Ah, j'ai qu'un seul désir, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Parce qu'il savait que dans ce temps-là, la présence de Dieu résidait dans un lieu, le temple. Mais quand il sortait du temple, il sortait de la présence de Dieu. Dieu est venu habiter dans notre temple pour que jamais plus, à l'église ou pas, le lundi, le mardi, peu importe, dans le temple, peu importe, seul ou rempli, il faut que tu comprennes que Dieu habite dans ton temple et que tu ne quittes pas, en fait, la présence de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le temps, tu es complètement rempli de l'Esprit. Parce que si tu as été converti puis que tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, c'est la troisième personne de la Trinité. Dites-le avec moi, c'est le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une fois, je disais à mon fils, c'est quoi les trois personnes de la Trinité? C'est le Dieu le Père, le Fils et nous. Non, ce n'est pas ça. Il faut que tu comprennes, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Parfois, elle est mal comprise. On le voit comme un peu une énergie. Une ambiance. C'est un peu flou parce qu'on ne voit pas vraiment qu'est-ce que c'est. Alors en fait, ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas une puissance. Même si cette personne-là, le Saint-Esprit, est puissante, il ne faut pas juste la garder comme une option en arrière. Non, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Tout aussi égal que les deux autres. Un Dieu en trois personnes. On est monothéiste, on croit en un seul Dieu, mais en trois personnes. Il faut qu'on comprenne que la personne du Saint-Esprit, si c'est une personne, nous devons entretenir une relation avec une personne. Ce n'est pas parce que j'ai dit le jour de mon mariage, je t'aime chérie, que je prends pour acquis qu'elle le sait, puis que je n'ai plus besoin de jamais prendre de temps de qualité avec elle. Parce qu'au contraire, si on n'entretient pas notre relation rapidement, ça va s'assécher. Et même si on s'aime, même si on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, même si on sait que waouh, on vit des beaux moments ensemble, si on n'est pas intentionnel à prendre soin de notre relation, qu'est-ce qui va arriver? On va se dessécher petit à petit, on va devenir des colocs ou des collègues. Mais Dieu veut pas être ton coloc, il veut pas être ton collègue, il veut avoir un cœur à cœur avec toi chaque jour. Quel privilège! Ne dis pas, ouais, mais ça dépend son horaire. Lui, il est tout le temps disponible. Maintenant, est-ce que toi, tu prends du temps pour être en sa présence? Est-ce que toi, tu mets du temps à part chaque jour? Et puis, c'est pas d'être légaliste. Dieu nous a pas donné son esprit pour accomplir des choses. Non, mais pour être en relation avec lui. Mais combien savent qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs? Quand tu goûtes la présence de Dieu, tu te dis, c'est exactement là où je veux être. Mais quelle beauté que tu n'aies pas besoin de venir seulement à l'église pour voir la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin du bain de complet pour être dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi, dans mon cœur. Quel privilège! Mais je ne dois pas minimiser ça. Je ne dois pas prendre pour acquis cette relation. Entretiens-tu ta relation avec le Saint-Esprit ou la prends-tu pour acquis? Parce que vous savez, dans la Bible, on parle hein, que tu peux attrister le Saint-Esprit. Tu peux éteindre l'Esprit, tu peux t'opposer à l'Esprit. Il y a beaucoup de choses où c'est très relationnel. Le Saint-Esprit vit en toi, mais il ne faut jamais le prendre pour acquis. Au contraire, il faut que continuellement, nous voulions être remplis. C'est Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait en nous? Il régénère les croyants, c'est-à-dire qu'il les rend spirituellement vivants, leur donne une nouvelle vie en Christ. Le Saint-Esprit habite dans le croyant qui a donné sa vie à Dieu. Et il le guide pour être transformé, pour ressembler davantage à Jésus. Ce que le Saint-Esprit fait dans ta vie, c'est qu'il veut en fait que tu deviennes de plus en plus comme Jésus-Christ. Alors, il faut que tu comprennes aujourd'hui que tu ne peux pas juste vivre ta vie à ta propre volonté et dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Lui veut t'emmener à être comme Jésus-Christ. Ça va parfois aller contre ton instinct de dire « Ah, j'ai envie de faire ça ». Parce que si ce n'est pas bon pour toi, le Saint-Esprit va te rediriger. C'est pour ça que tu ne dois pas attrister l'Esprit. C'est pour ça que tu ne dois pas t'opposer à l'Esprit. Mais il faut que tu comprennes que ta relation avec l'Esprit est primordiale. Il habite en nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Il nous convainc de faire du péché. Alors, il y a un côté où parfois, quand tu veux prendre des choses, tu veux faire des choses difficiles, le Saint-Esprit te confronte. Mais personne n'aime être confronté. Mais quand tu comprends que tout ce qui est bon me vient de Dieu, même la confrontation de Dieu est bonne pour moi. Heureusement que parfois Dieu nous redirige en disant « Non, là, tu es en train de t'éloigner, il faut que tu reviennes. » Ça fait mal, mais c'est toujours pour notre bien que ceux qui le croient disent « Amen. » Comment être rempli du Saint-Esprit? Il faut que tu t'abandonnes perpétuellement à lui. Que tu reconnaisses, si tu ne l'as pas encore fait, que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que tu puisses vivre une vie pleine, remplie d'abondance ici. Et justement, par la puissance du Saint-Esprit. Mais aussi, il faut que tu puisses demander avec foi d'être renouvelé par l'Esprit. Comme je l'ai dit, c'est pas juste au jour de ta conversion que tu es rempli et ça s'arrête. Non, il faut continuellement demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, nettoie mon cœur. Même si je suis le temple, il y a toujours le combat entre la chair et l'Esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut toujours que je combatte le bon combat de la foi. Je ne peux pas juste prendre pour acquis que le jour de ma conversion, j'ai été rempli d'une plénitude, donc maintenant, jusqu'à la fin de ma vie, je suis rempli. Non. Et il faut obéir à la parole de Dieu. Si en ce moment, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas rapidement te rendre compte que tu marches par tes propres forces. La Bible dit, hein, non pas par la puissance, non pas par la vue, ni par ta force, mais par seulement l'Esprit de Dieu. Tu peux accomplir le plan de Dieu par aucun de tes dons et talents ici, mais juste parce que l'Esprit de Dieu est en toi, il te donne le vouloir, le faire, il te donne d'être outillé pour accomplir la mission qu'il veut pour toi ici. Si en ce moment, tu comptes seulement sur tes propres forces, même si tu es dans le ministère, même si tu penses que tes dons sont à la gloire de Dieu, si tu prends pour acquis que ce sont tes forces, tes dons, tes talents qui t'amènent à avoir la victoire spirituelle, tu vas prendre un mur à un moment donné. Il faut toujours que tu comprennes que moi, sans Christ, sans Dieu, je suis complètement vide de tout et vide de puissance. C'est comme si tu retires une branche d'un arbre. Elle a l'air belle, elle a l'air fleurie, mais tu reviens dans quelques jours, elle est morte. Sans la présence du Saint-Esprit, sans la source vivifiante que nous recevons, tu vas rapidement devenir sec. Et tu vas voir que tes dons, tes talents, ta bonne volonté, ça va pas tenir longtemps. Mais le chrétien, même le plus faible, même en ce moment qui est sous le poids d'une maladie et tout ça, s'il comprend que sa relation avec l'Esprit, il va chercher la source qu'il a besoin. Même dans le désert, il y a quelque chose de beau qui va prendre parce que l'eau de l'Esprit renouvelle, régénère et elle nous donne de porter du bon fruit. Alors même si en ce moment tu es dans un désert, reçois la source du Saint-Esprit comme une pluie qui vient inonder ton désert. Et là où il y a un désert en ce moment, il va y avoir des fruits, des arbres, il va y avoir quelque chose de beau, de la verdure qui va pousser, parce que ce que Dieu veut, c'est que tu ailles en ce moment chercher dans sa présence ce que tu as besoin pour ta vie en ce moment. Peu importe tes dons, peu importe tes talents, ni par la vue, ni par la puissance, ni par mes forces, c'est par l'Esprit de Dieu que tu peux accomplir toutes choses. À ta conversion, le Saint-Esprit devient le résident dans ton cœur. Mais au plus tu marches avec lui et que tu entretiens ta relation avec le Saint-Esprit, au plus il devient le président de ton cœur. Il ne peut pas juste être un résident et puis il y a plein d'autres choses charnelles. Mais vous savez, ce n'est pas seulement... vous savez, le jour de ma conversion, j'ai cru ce mensonge-là que parce que j'avais été complètement baptisé, on pourrait dire, d'eau et d'esprit, j'étais complètement rempli. Et en fait, non, j'avais beaucoup de choses à travailler. Et Dieu, le salut, vous savez, c'est un processus. Si tu déclares Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tout de suite, ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est un statut. Par contre, la sanctification est un processus. Le jour J, j'ai dit « Waouh, mon cœur est complètement nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. » Mais il fallait qu'il prenne toutes les parties de mon corps. Et vous savez, il y a des portes, des fois, qu'on laisse fermer. Puis il y a des choses que je dis « Ah ouais, ça, on verra plus tard. » Puis il y a des choses que c'est en chemin, en demandant le Saint-Esprit, en venant à l'Église, en entendant la parole de vérité, que Dieu vient mettre le doigt sur les choses qu'il veut qu'on change par sa force. Et petit à petit, et heureusement, il y a une marche qui va de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pas le jour J où je suis rendu parfait. Non, je suis rendu dans le nouveau beau chemin. Mon nom est inscrit dans le livre de vie, ce qui fait que j'ai plus rien à craindre. Mais il faut que je continue de marcher avec une volonté d'être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Alors que je parlais avec un des baptisés dernièrement, il m'a envoyé comme son premier témoignage. Il dit, il y a quelque chose de fort qui s'est passé en ce moment. Il y avait quelques semaines où je ressentais de la colère, de la vengeance envers quelqu'un et tout ça. Et puis, il dit, j'ai commencé à prier, à demander à Dieu. Puis j'ai même demandé à des gens de prier avec moi. Et il dit, le lendemain matin, tout de suite, j'avais complètement une autre vision. Et puis, il m'écrivait ça comme, il y a eu un miracle qui s'est passé. Mais j'étais en train de dire, il commence à comprendre que là, parce qu'il s'est baptisé, parce qu'il a donné sa vie à Dieu, Dieu, par son esprit, est en train de faire une œuvre que lui seul sait faire. Et il le remplit de jour en jour. Celui qui se dit, non, je veux me garder dans le ressentiment, je veux me garder dans la rancune, je vais me venger, ça prendra les années que ça doit prendre, mais je vais vraiment... Non, si tu restes dans cette attitude-là, tu t'opposes à l'esprit. L'esprit veut la paix, veut la réconciliation, veut le pardon. Alors si tu te dis, ah, ça va être difficile, j'ai pas envie, mais si la parole de Dieu me dit ça, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de soutien, l'esprit va travailler parce que l'esprit est en train d'intercéder pour nous et il montre à Dieu, voici, lui, il est prêt à faire un pas et Dieu honore celui qui honore sa parole, même si c'est difficile. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui ont besoin d'entendre? Dieu travaille par son Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Alors que je voyais cette image avec une montgolfière. Vous savez, une montgolfière, c'est magnifique quand c'est dans les airs. Mais elle a toujours besoin d'une nouvelle flamme. Je ne sais pas si vous êtes des experts en montgolfière, je ne le suis pas. Mais ce n'est pas parce que tu mets tout l'air chaud que la montgolfière s'en va et puis dans les airs, c'est parfait. Si elle veut rester dans les airs et continuer son ascension sans tomber, il faut continuellement qu'il y ait une nouvelle flamme qui soit donnée. Parce que la flamme du départ doit être continuée. Il y a tout un chemin qui doit être fait parce que juste avec le départ, ça va t'amener jusqu'à un certain niveau. Est-ce qu'en ce moment, depuis ta conversion, est-ce qu'il y a une recherche de la présence de Dieu? Il y a une recherche d'une communion avec le Saint-Esprit? Où tu as pris pour acquis que parce que j'étais parti et puis parce que j'ai monté haut, mais maintenant ça va aller. Non, tu as besoin d'une nouvelle flamme. Et peut-être aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de ton cœur en disant, ça fait longtemps que tu n'as pas pris du temps dans ma présence, à venir complètement t'abandonner. Tu as besoin d'une nouvelle flamme. Et vous savez, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est appelé Roi, c'est le souffle de Dieu. En ce moment, tu as besoin d'un nouveau souffle pour que la flamme du premier amour reprenne sa place. Mais dans une montgolfière également, pour qu'elle monte, il faut qu'on lâche du lest. Parce que tu ne peux pas emmagasiner des choses qui pèsent et vouloir t'élever. Alors en ce moment, qu'est-ce que tu dois, toi, laisser en arrière? Quel est le lest que tu dois prendre dans ta montgolfière qui représente ta vie? Dire non, ça c'est trop, ça pèse lourd et ça ne doit pas être ici. Si je veux m'élever comme Dieu veut que je sois sur mes situations, sur la vie en général, dans mon témoignage, je dois abandonner ce qui me pèse et je dois avoir besoin d'une nouvelle flamme pour augmenter, pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur et pour faire en sorte que Dieu travaille dans mon cœur, pour être une lumière pour les gens. Les montgolfières sont magnifiques quand elles sont en haut. Mais quand elles manquent d'oxygène, quand elles manquent d'air, quand elles manquent d'une nouvelle flamme, rapidement, elles redescendent. Je ne veux pas qu'il y ait une église ici qui monte, qui monte, qui monte, et puis à un moment donné, que ça redescende. Dieu veut nous donner aujourd'hui un nouveau souffle pour qu'on puisse, avec lui, par sa force, commencer à vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Parce qu'on doit être rempli de l'Esprit, mais également débordant de vie. Dans Romains 15, 13, c'est marqué que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Plus tu t'abandonnes, plus tu es rempli. Mais Dieu ne te remplit pas juste au rabord. Il est tellement un Dieu bon, un Dieu généreux, que quand il nous remplit pour que ça déborde. Parce que son esprit ne nous l'a pas seulement donné pour nous, pour que nous soyons personnellement en communion avec Dieu. Oui, oui, ça fait partie. Mais il nous le donne pour que, par son esprit, nous débordions. Et que lorsque nous débordions, les gens autour de nous voient et reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Pas pour notre gloire. Je ne veux pas qu'on m'applaudisse en disant « Oh, tu es tellement une belle personne. » Il y en a plein de belles personnes. Je ne suis pas une belle personne, je veux être une personne transformée pour qu'à travers moi, on voit Christ. On voit la réaction de « Wow, lui, il est différent. » Parce que, et ce n'est pas parce que « Voilà, ses grandes forces. » Non, aucunement. Je sais que je suis faible. Vous avez jamais vu, mais j'espère que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez jamais le Ben Luiten sans le Saint-Esprit en Ben Luiten. Non, mais réellement. Vous savez, j'ai rencontré du monde à leur meilleur spirituellement. Des personnes belles qui brillaient. Et j'ai rencontré les mêmes personnes complètement des années après avoir abandonné tout cela. Et elles ne sont pas devenues les pires personnes de l'humanité, mais elles sont devenues les pires versions d'elles-mêmes. Et ce n'est pas que ces personnes-là ont changé, et aux yeux de Dieu, Dieu les aime pareil. C'est juste qu'ils ont perdu une flamme. Que jamais je me parle à moi-même, que jamais je ne perde la flamme de l'Esprit. Je veux avoir une sainte crainte, et je crois que l'Esprit de Dieu souffle une crainte de Dieu. Que si je fais un pas en dehors de sa présence, c'est le pire qui peut m'arriver. Jamais je ne veux me laisser dériver. Jamais que l'Esprit de Dieu vienne souffler sur quelqu'un en ce moment et que tu reçoives une crainte de dire « Hey, est-ce que je suis en train de dériver ?» Il ne faut pas que tu te laisses dériver. Il ne faut pas que tu te laisses juste partir. Non, parce que Dieu veut non seulement te remplir pour que tu sois rempli abondamment de sa présence, mais que de toi, ça déborde sur tes collègues, sur ta famille, dans tes amis, sur tes voisins, pour que les gens autour de toi disent « Il y a quelque chose de différent en lui. » Vous savez, quand il y a des chrétiens de l'Église qui passent par des moments difficiles, Ils ont tellement une dépendance à l'Esprit de Dieu que les gens autour, en étant pasteur, on marche avec des gens qui vivent dans des fois les pires saisons de leur vie. Et je vous le dis, des fois, moi-même, personnellement, je me dis, si j'étais passé par là, j'aurais été complètement brisé. Et vous savez, on peut dire ça, mais en fait, je pense qu'il y a une grâce spéciale pour des gens qui vivent des épreuves que nous, on dirait, hey, c'est impossible, ça va crasher. Dieu donne une grâce spéciale à celui qui se tient proche de lui. Le Dieu de miracle qui bouge des montagnes, ce n'est pas juste que oh, on va bouger des montagnes, c'est qu'il bouge des choses dans nos vies que wow, on serait complètement à terre si on était sans lui. Mais il nous donne une grâce spéciale. Et ces gens-là, au travers de l'épreuve, au travers de leur dernier stade de vie où ils vont quitter ce monde, ont un témoignage par leur lumière parce qu'ils sont tellement remplis de l'Esprit de Dieu que les gens en eux ne voient plus la maladie, ne voient plus la dépression, ne voient plus. Ils voient la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et ils disent, mais c'est impossible, c'est de la folie. C'est, comment tu peux être aussi en paix? Comment tu peux pardonner des gens qui t'ont fait ça? C'est impossible. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui fait de nous des témoins de sa lumière? Dieu veut nous remplir pour que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit. Si ton cœur est une éponge, quand elle est pressée, qu'est-ce qui ressort? Le Saint-Esprit, au plus tu baignes dans la présence du Saint-Esprit, au plus tu es dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole, quand tu es au contact de tes frères et sœurs, le corps de Christ, il y a quelque chose, il y a un parfum qui se sent. Vous savez, il y a des gens qu'on rencontre et ils nous donnent une dose d'encouragement, une dose de vie. J'ai l'impression que je passe une minute avec cette personne-là, elle me remplit d'une joie, d'une paix, puis toujours elle est brillante. Et la même chose avec d'autres personnes qui en une minute viennent me drainer toute mon énergie. Je ne dirais pas qui, vous n'êtes pas là, ok? Mais les personnes qui sont les plus dans la présence de Dieu, il y a un parfum qui est là. Et ils ne brillent pas pour leur lumière, ils brillent de la lumière de Christ. Et c'est exactement ces personnes-là avec qui je veux être. Et vous savez, rempli du Saint-Esprit fait que tu réagis sous la pression d'une manière différente. Les fruits de l'Esprit, quels sont-ils? Les fruits de l'Esprit, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. En fait, les fruits de l'Esprit te protègent toi et te protègent des autres et protègent les autres de toi. Quand il y a quelque chose qui arrive et qu'il y a la pression, ben la maîtrise de soi par le fruit de l'Esprit. Parce que j'ai l'Esprit, je manifeste le fruit. Okay? C'est parce que tu es bien enraciné que l'âme peut porter du fruit. Si tu n'as pas de racine dans l'Esprit, tu ne peux pas porter des bons fruits. Vous êtes d'accord avec moi? On peut avoir l'apparence de la même canette. On peut avoir l'apparence d'être quelqu'un de bon, de généreux. Mais si tu n'es pas groundé, tu ne pourras pas porter de bons fruits. Alors c'est de ma relation avec le Saint-Esprit que je peux porter des fruits et donc réagir d'une certaine manière, avec patience, avec bonté, avec fidélité. Quand la tentation est là, non, je veux rester fidèle. Il y a comme quelque chose où mon cœur est différent. Et même sous la pression, en fait, c'est le meilleur de moi, c'est le meilleur de Christ, c'est le meilleur de l'Esprit en moi qui fait en sorte que je peux réagir. La maîtrise de soi, c'est pas non tant pour me protéger moi, c'est aussi pour protéger les autres de moi-même. La patience. Maintenant, c'est que les fruits de l'Esprit sont une chose, mais il y a également dans la Bible une promesse d'avoir les dons de l'Esprit. Et d'être en relation avec l'Esprit de Dieu, c'est qu'il nous fait déborder, et déborder pour que les autres aussi reçoivent de l'Esprit de Dieu. Et les dons de l'Esprit sont faits pour l'édification de l'Église. C'est pour ça qu'on croit réellement encore aujourd'hui que le Saint-Esprit donne des dons à son Église. Et les dons de l'Esprit sont comment? 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Mais ce qui est fort, c'est que parfois j'entends des chrétiens qui veulent manifester les dons de l'Esprit sans en fait manifester les fruits de l'Esprit. Ils veulent l'autorité pour parler avec prophétie, et puis des choses, et puis les dons. Mais alors qu'en fait, ils manquent d'amour, ils manquent de douceur, ils manquent d'humilité. Ne recherche jamais l'autorité versus l'humilité. En fait, tu auras une autorité spirituelle, au plus ton humilité spirituelle augmentera. Si c'est pour te glorifier, si c'est pour que les gens voient la gloire de Dieu à travers toi, et puis que tu vois ta gloire spirituelle, non. Dieu ne te donnera pas les dons si en ce moment tu ne manifestes pas assez les fruits. Si tu veux parler dans d'autres langues, mais en ce moment tu ne fais que critiquer, il va falloir d'abord que tu gères ta langue à toi avant de recevoir des choses pour dire. Acte 2, ça a été une puissance pour témoigner de la gloire de Dieu aux gens qui étaient autour d'eux. Mais ils ont été remplis de l'Esprit pour pouvoir être eux des témoins partout. Est-ce qu'en ce moment tu es un témoin de Dieu là où tu es? Et si tu dis pas assez, dis-moi aussi pas assez. Seigneur, remplis-moi d'une nouvelle flamme, remplis-moi d'une nouvelle source. Je veux être rempli pour pouvoir être débordant, pour que les gens les plus proches de moi ressentent que Ben est différent quand il va dans la présence de Dieu. Ben est différent quand il vient. Il y a quelque chose en ce moment que tu dois prioriser. Au-delà de tout ce que tu as à faire en ce moment, c'est ta relation avec Dieu. Parce que c'est ça ultimement qui va rester. Souvent au mariage, je termine avec cette illustration, souvent dans les mariages, on fait une pyramide de verres. Et puis j'ai pris cette illustration, mais c'est fort parce qu'on remplit plein de verres, des dizaines et des dizaines, mais seulement en en remplissant un. Et à trois étages, on pourrait dire que le premier étage en bas, c'est notre corps. C'est ce qu'on ressent, c'est l'ouïe, l'odorat, les cinq sens. Le deuxième, c'est l'âme. C'est mes émotions, mes sentiments. Et le troisième, c'est l'esprit. C'est une petite partie. Mais si elle est complètement remplie, elle va complètement remplir les autres, elle va déborder. Et lorsqu'elle va déborder, elle va influencer le reste. Quand tu es dans la présence du Saint-Esprit et que tu restes là, non pas seulement pour être rempli le dimanche et puis vider jusqu'au dimanche prochain et être rempli le dimanche, non, quand chaque jour tu vas chercher la manne que Dieu te donne, quand chaque jour tu dis non, j'ai un travail à faire, il faut que je me discipline. Ce corps de chair, non, je peux pas suivre sa volonté, il faut que je suive la volonté de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non. Mais Dieu nous donne le vouloir et le faire par son esprit. Et Seigneur, donne-moi d'être rempli et que mon esprit influence mes émotions, mes sentiments. Que je ne sois pas drivé par mes feelings et puis mes émotions, c'est ça qui dirige ma vie. Et quand je sens que je suis dans le mood, tant mieux, tout le monde va être heureux. Et quand je suis dans un mauvais mood, dans une mauvaise... Non. Il faut que ça soit l'Esprit de Dieu en toi qui renouvelle toutes choses. Et je crois réellement qu'en ce moment, il y a du monde qui prend des décisions qui sont émotionnelles, alors qu'en fait, l'Esprit de Dieu, ça fait longtemps que tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Ou il y en a ici, vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous vous opposez à l'Esprit. Mon conseil pour toi, c'est ne résiste pas un jour de plus à l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce qu'il veut faire en toi, c'est pour ton bien. Même si parfois, ça va faire mal. Peut-être qu'en ce moment, tu prends des décisions influencées par la culture et même dans ton corps. En ce moment, je lisais des articles, les adolescentes de plus en plus ont recours à la chirurgie esthétique parce qu'elles veulent ressembler au filtre qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc elles disent, si réellement je changeais mon corps, enfin je serais heureuse. Quel mensonge! Et je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de notre corps, non, j'encourage chacun à prendre soin du temple du Saint-Esprit, qu'on soit bien dans notre corps, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, je crois réellement. Par contre, si tu mets toute ton emphase, toute ton énergie, toute ta pensée, tous tes feelings, tout sur ton corps, à un moment donné, tu vas voir qu'avec l'âge, petit à petit, tu vas dire « Wow, réellement, j'ai investi tant sur cela, alors qu'en fait, mon esprit pouvait redonner vie à mes os quasiment. » Il y a des gens de plus de 80 ans qui sont jeunes dans leur âme, jeunes dans leur corps parce qu'il y a quelque chose de fort spirituellement. Ils sont tellement renouvelés qu'il y a quelque chose qui sort d'eux. Il y a une source de vie qui sort d'eux. Je veux être comme ça. Notre corps ne restera pas. Il a été fait pour un moment donné qu'il y a une date de fin. Mais par contre, notre esprit, lui, il peut être complètement vivant aujourd'hui. Je ne veux pas attendre d'être vivant au ciel. Je veux avoir l'opportunité, le privilège d'avoir la vie de Dieu en moi ici, pour déborder, pour faire que de cette vie, ça soit pas ni mon corps, ni mon âme qui me guide, mais ça soit l'Esprit de Dieu. Et d'être rempli de l'Esprit de Dieu fait que les autres domaines de ma vie vont être remplis également. Ça va être un choix de chaque jour. Et je veux vraiment qu'on soit défié aujourd'hui. Alors que mercredi, il y avait une soirée de louange ici. Il y avait 350 personnes qui sont venues et puis... On a vécu vraiment des temps forts dans la présence de Dieu. Et il y a des gens qui étaient là, ici, qu'on sait leur vie est complètement à un niveau chaotique. Mais on leur a dit, mais viens dans la présence de Dieu. Pas comme juste, tu vas passer une bonne soirée, ça va te divertir, ça va te changer un peu les esprits. Non, complètement, ça va renouveler ton esprit. Et il y a des gens qui étaient là, qui ça leur prenait toute leur force de lever les mains parce qu'ils se disent, en ce moment, je ne suis pas digne. Mais à la croix, Jésus a tellement payé un grand prix. Si tu pouvais comprendre que le Saint-Esprit de Dieu est en fait le cadeau grâce au sacrifice, tu reviendrais là en disant, Seigneur, je ne suis pas digne. Personne, ni même Dan, ni même Mylène, ni même moi, était digne de pouvoir chanter, mais il nous a rendus dignes parce que ce n'est plus moi qui veux vivre, c'est l'Esprit de Dieu, Christ, l'Esprit de Jésus qui vit en moi. C'est pour ça que quand je me tiens devant Dieu, ce n'est pas mes péchés que Dieu voit, c'est le sacrifice de Jésus et la victoire à la croix. C'est pour ça que quand je suis là, je me dis, punaise, il y a comme quelque chose de ce corps qui est... Mais je n'empêcherai rien de louer Dieu parce que la gloire lui revient. Et quand on prend cette conscience-là par l'esprit, motivé à louer Dieu, à chanter sa gloire, il y a une puissance de Dieu qui vient libérer nos chaînes, venir nous ranimer, venir briser tout ce qui en ce moment, le mensonge, nous garde en captivité. L'esprit de Dieu, dans la présence de Dieu, par la croix de Jésus, vient libérer nos cœurs, nos âmes, nos corps, et on peut le louer en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui nous donne de vivre ça? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux ensemble? Et j'aimerais qu'on prie pour être une église qui recherche la présence du Saint-Esprit. Et qu'aujourd'hui, on dit, Seigneur, si j'ai pris pour acquis. Certains ici, alors qu'on parle du Saint-Esprit, ils ont toujours une image peut-être de choses vraiment étranges qui se sont passées. Et puis ils ont un peu peur de se dire, non, ça c'est quelque chose que je ne connais pas, c'est trop flou. Aujourd'hui, la personne du Saint-Esprit veut avoir une relation avec toi, veut être en communion avec toi, veut faire sa maison dans ton cœur. Alors il faut juste que tu dises, oui, je suis prêt à m'abandonner une fois de plus. Rien n'égale ton amour et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te témoigne. En ce moment, Jésus est à la droite du Père, il intercède pour nous, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous aujourd'hui. C'est lui qui est dans ce lieu en ce moment et qui te convainc en ce moment que Dieu parle à ton cœur. C'est lui qui t'invite à revenir, c'est lui qui t'invite à te repentir. C'est lui qui te donne l'espoir de dire « ne reste pas dans ta situation, il y a mieux en Christ ». C'est lui en ce moment qui fait une œuvre pour t'amener au modèle qui était Jésus-Christ. C'est pour ça que ne résiste pas à l'Esprit. Au contraire, fais-lui de la place. Si aujourd'hui tu es plein de toi, dis juste « Seigneur, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te recevoir plus ». Si en ce moment, ça fait des années que tu as donné ta vie à Dieu, et puis plusieurs fois, tu dis dans mon témoignage, j'ai été rempli du Saint-Esprit, puis ne parle pas au passé. Quand Paul dit « Soyez rempli de l'Esprit », il parle au présent. Aujourd'hui, tu as le choix de laisser ton cœur ouvert et que Dieu va venir le remplir par son Esprit. Seigneur, je te prie pour nous, je te prie pour notre Église, je te prie pour moi, je te prie pour nos cœurs, parce que nous avons tellement besoin de la source qui vient de toi et qui a été donnée par l'Esprit de Dieu. Jésus, tu as dit pendant que tu étais ici, il est avantageux pour vous que je m'en aille parce qu'il y a un consolateur qui va venir, un autre défenseur. Le Saint-Esprit de Dieu a été envoyé pour notre bien. Seigneur, on ne veut pas le minimiser. On ne veut pas, Seigneur, le prendre pour acquis. Au contraire, on veut le prioriser. Seigneur, merci parce que tu as décidé de faire ta demeure dans mon cœur, dans ma vie. Je suis appelé le temple du Saint-Esprit. Alors, je veux faire en sorte que ce temple-là brille pour ta gloire. Seigneur, viens faire le ménage s'il y a des choses en ce moment qui ne sont pas conformes à ta volonté. Seigneur, donne-moi, en lisant ta parole, que le Saint-Esprit ouvre mes yeux et que je sache voir, discerner le bien, le parfait, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut que je change. Saint-Esprit, donne-nous une force pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, pour pouvoir dire ce qui me tenait captif n'est plus. Parce qu'à la croix, Jésus a tout donné, il m'a donné une délivrance. Et par le Saint-Esprit, nous proclamons que le nom de Jésus est sur notre vie et que nous sommes transformés à la stature de Christ. Donne-nous, Saint-Esprit, la volonté, donne-nous, Seigneur, le désir, donne-nous l'humilité, mais donne-nous également l'autorité des enfants de Dieu. Pour ne plus marcher de manière médiocre, mais qu'au contraire, nous puissions marcher en disant, nous avançons parce que le royaume de Dieu avance. Et je ne veux pas être en arrière à regarder qui je suis ou qui j'étais, je veux regarder à la croix et avancer avec la croix comme devant moi. C'est elle mon objectif, pour qu'un jour, dans la gloire de Dieu, tu puisses nous dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Seigneur, rends-nous serviteurs. Donne-nous, Seigneur, les dons de l'Esprit que nous avons besoin. Pour que dans l'Église, des paroles de sagesse soient données. Pour des dons de guérison, des paroles de prophétie, Seigneur. Nous réclamons ton Esprit. Nous réclamons les dons, Seigneur, les meilleurs, pour que dans ce contexte, ici, dans notre Église, nous puissions être une Église vivante par ton Esprit. Non pas par notre force, non par nos services, non par nos ministères, non pas par nos dons, notre stage, mais par l'Esprit de Dieu qui vient nous témoigner que nous sommes enfants de Dieu et que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu qui fait en nous une œuvre merveilleuse? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et on va terminer en chantant ce chant. Qu'on puisse le chanter comme une prière et que dans ton cœur, tu puisses faire la place au Saint-Esprit pour qu'il fasse ce que lui seul.